Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Rock and Page, Marie-Pierre Soriano aux commandes de votre magazine littéraire et musical. Moi, je lis et avec vous, je partage. Et ça, j'essaie de le faire chaque semaine pendant 30 minutes le plus fort que je peux. Passeuse un jour, passeuse toujours. Pour y arriver, d'abord, je ne chronique que ce que j'ai aimé. Bande dessinée, album jeunesse, roman ou poésie, qu'importe le flacon. Et puis, j'interviewe les auteurs quand c'est possible. Et mon truc en plus à moi, c'est de vous proposer une playlist par ouvrage évoqué, histoire de restituer les émotions pures, en toute subjectivité, par d'autres émotions. Histoire aussi de sortir des entre-soi qui, par les temps qui courent, dégueulent, puent et s'obscurcissent, grandement et plus que jamais, me paraissent des ennemis de nos libertés chéries. La menace du pire est à nos portes, moi c'est la honte que je porte, un vrai souci de n'avoir pas fait plus que ce que je ne fais. Alors disons que c'est pas maintenant qu'il faut s'arrêter de causer dans le micro de celles et ceux qui transforment leur hypersensibilité en or massif pour nous donner d'autres clés, d'autres questions, d'autres billets pour d'autres ailleurs. Au sommet de ce numéro, laissez-moi vous annoncer que pour moi c'est juste un truc de fou que je m'apprête à vivre. Ce métier m'a offert des moments de grâce à plusieurs reprises, de vrais moments de grâce. Je me souviens du premier entretien avec Laurette Nobecourt, de ma rencontre avec Virginie Despentes. Je me souviens de Marc Graciano et de son pays de la file électrique. Je me souviens de ma rencontre avec Georges Semprin, de celle avec Claro. Je me souviens de Marion Mazorik au lendemain de la mort de Foster Wallace. Je n'ai pas oublié la rencontre avec Ruth Kluger. Je me souviens de l'accident d'amour de Loïc Demey, de la jeunesse solaire de Julia Carninon, de la première fois d'Isabelle Bonalouchani, pour ne citer que. Et aujourd'hui, c'est avec beaucoup de fierté et un pet d'émotion que je vais vous causer du tout dernier roman d'Anne Scott qui s'intitule Cortex et qui sort cette semaine chez Stock. Et je vous annonce que la vie n'est pas qu'une pute, puisque d'ici une poignée de minutes, pour vous et moi, Anne Scott répondra à toutes les questions de Rock and Page. Mais en attendant, voici comment moi, je me sentais en refermant son très bon dernier roman. There's a look on your face I would like to knock out. See the sin in your grin and the shape of your mouth. All I want is to see you in terrible pain. Though we won't ever meet, I remember your name. Can't believe you were once just like anyone else. Then you grew and became like the devil himself. Pray to God I think of a nice thing to say, but I don't think I can, so fuck you anyway. You a scum, and I hope that you know that the cracks in your smile are beginning to show. Now the world needs to see that it's time you should go. There's no light in your eyes and your brain is too slow. Can't believe you were once just like anyone else. Then you grew and became like the devil himself. Pray to God I can think of a nice thing to say, but I don't think I can, so fuck you anyway. Bet you sleep like a child with your thumb in your mouth. I could creep up your side, put a gun in your mouth. Makes me sick when I hear all the shit that you say. So much crap coming out, it must take you all day. There's a space kept in hell with your name on the seat, with a spike in the chair just to make it complete. When you look at yourself, do you see what I see? If you do, why the fuck are you looking at me? Why the fuck are you looking at me? Why the fuck are you looking at me? Why the fuck? Yep, c'était Archive avec ce fuck you qui me remue tant et tant depuis maintenant de nombreuses années, pour vous dire aujourd'hui comment je me sentais en refermant le tout dernier roman d'Anne Scott qui paraît cette semaine chez Stock et qui s'intitule Cortex. Ce fuck you pour vous dire la force, voire la violence qu'elle a su transformer sous cette plume qu'elle peine sûrement à tenir légitimement. Et pourtant, Anne Scott est auteure, n'en parlons plus, ou alors si, parlons-en en grand, avant de la recevoir d'ici une poignée de minutes. Cortex arrive après 20...
arrive 21 ans après Asphyxie, 17 ans après Superstar. Cortex arrive après Poussière d'Ange, Le Pire des Mondes, et puis Héroïne, et Les Chewing-Gums ne sont pas biodégradables. Et enfin, à La Folle Jeunesse, qui lui sortait en 2010. Cortex se passe à Los Angeles. Los Angeles est quasiment un personnage dans ce roman. Cortex nous place face à Burt, Russ, Angie et Jeff. Le premier est un loser qui réalise des podcasts sous pseudo, des podcasts au succès redoutable et redouté, dans lesquels il dégueule sur cette société malade, toujours cachée sous des masques d'acteurs imitant leur voix. Russ, lui, il est chargé de réaliser la soirée des Oscars. Il est le grand ponte de cette messe-là. Il vient de perdre sa femme. Angie est française. Elle est là pour rencontrer un producteur car elle s'apprête à réaliser son premier long-métrage. Jeff réalise la musique de film et en cette soirée d'Oscars, il est nominé. Jeff et Angie viennent de se retrouver tout à fait par hasard. Là, quelques jours avant cette cérémonie des Oscars, ils étaient amants il y a de cela 20 ans. Et alors que tout le monde prend place dans cette cathédrale qu'est le Dolby, ça c'est un théâtre, parce que les Oscars débute, un attentat a lieu. Et j'en resterai là pour ne rien voler à vos lectures. Anne Scott construit son roman en trois parties. Il est autant hommage au cinéma, surtout américain, qu'un plaidoyer contre notre société du spectacle et de la consommation, qu'un texte magnifique sur le travail de deuil. Anne Scott nous offre un roman construit comme un grand film qui débuterait par le pire, dans un brouhaha quasi insupportable, qui dirait autant l'auteur de cette fin d'une civilisation que la violence par laquelle elle arrive, que la surenchère obscène de nos modes de vie connectés, de consommateurs stars d'une heure, accro du like, et puis se poursuit par une longue et lente et très mélancolique errance par-dessus les cadavres, tous les cadavres, que ce soit ceux de l'attentat ou ceux que l'on traîne toute une vie. Anne Scott nous offre des personnages principaux et secondaires qui ont du corps, du coffre, que l'on pourrait reconnaître dans la rue, dans un décor très, très cinématographique, où l'on assisterait à des successions, des plans très réussis, baignés dans une lumière splendide. Elle nous offre des phrases que l'on relit pour leur beauté, d'autres encore que l'on relit pour leur justesse, et on se retrouve à refermer le livre en gardant au-dedans les personnages à la stature folle. On retourne voir Meryl Streep en vidéo, oui madame. On a relevé cette espèce de cinémathèque idéale qu'elle nous offre tout du long du roman. Et moi, très personnellement, j'ai aussi été très fortement marquée par le personnage d'Andy, que je vous dirais bien comme ça.
Ages of delirium.
C'était Soap and Skin pour vous dire toute la force, tout le combat que va mener le personnage d'Angie, le personnage féminin dans Cortex, le dernier roman d'Anne Scott, qui sort cette semaine chez Stock. Et Dieu du ciel, c'est une bonne nouvelle. En parlant de bonne nouvelle, le voilà le moment pour moi de la recevoir, Anne Scott. Anne Scott, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation dans Rock and Page.
Cortex, merci, bonjour.
Cortex arrive 7 ans après À la folle jeunesse. 7 ans, c'est pas rien. Est-ce que tu peux nous dire comment il est né ce roman? C'est cette année, elle correspond à quoi?
Qu'est-ce que j'ai fait pendant 7 ans? Pas grand-chose, en fait, en attendant d'arriver à trouver l'angle de ce livre. On l'a signé il y a 7 ans à peu près, et en fait, je ne savais pas du tout comment l'articuler. Donc j'ai passé un an ou deux sur la première partie, et après, je suis arrivée face à un mur, je ne savais plus du tout où emmener l'histoire. Et ce que je voulais faire au départ ne fonctionnait pas, et donc ensuite, je l'ai laissé de côté, j'ai fait d'autres choses, et pas grand-chose, et réfléchi, et puis c'est venu d'un coup, il y a quelques mois. Donc j'ai pas mis 7 ans à l'écrire, j'ai mis un an et 3 mois, et 7 ans.
Ouais, c'est ça. Et puis en plus, quand je viens de chroniquer le roman, et quand les gens ils vont le lire, on comprend aussi que en fait, les attentats du 11 septembre, par exemple, auraient suffi à eux-mêmes, et puis entre-temps, il y en a eu d'autres, et j'imagine que ça a nourri l'écriture aussi, d'une certaine manière.
Mais en fait, le truc, c'est qu'au départ, ce que je voulais, c'était juste deux parties, avec dans la première partie, une agression collective, et qui montre la solidarité, donc à l'intérieur, au cœur du truc. Et dans la deuxième partie, je voulais montrer comment les victimes d'attentats sont livrées elles-mêmes après, une fois qu'elles ressortent de l'attentat ou de l'hôpital. Et ça ne suffisait pas, et je voulais faire une critique des réseaux sociaux aussi, comment ils s'emparent d'un événement, et comment tout est dénaturé jusqu'à ce que les choses soient mises vraiment à plat. Et en fait, comme j'ai tardé à sortir le livre, il y a plein de choses en cours de route qui sont devenues obsolètes, plein de remarques que je me faisais sur les réseaux sociaux qui ont déjà été faites entre-temps. Et donc j'ai dû abandonner plein d'aspects de ce livre parce que j'ai mis beaucoup trop de temps à le finir, en fait. Donc, mais je ne réponds pas à la question. C'était quoi la question?
Si, pour moi, ça suffira comme réponse. Moi, je vois dans ce roman plusieurs choses, comme des strates qui se superposeraient les unes aux autres. La première est un véritable hommage au cinéma américain, notamment celui des années qui courent de 70 à 2000, je dirais. Puis la seconde serait une sorte d'onde de choc autour de la question des attentats, doublée d'une image implacable de notre société. Et enfin, je vois en Cortex tout autant un roman sur effectivement la partie la plus intime qui nous habiterait, à savoir le deuil et effectivement l'errance après ces souffrances collectives, en fait. Est-ce que tu partages cette lecture?
Mais je pense que le vrai sujet, c'est la solitude, et qu'après, c'est comment on gère les choses collectives, chacun dans son coin, tout seul. En fait, moi, c'est ça qui me frappe à chaque fois qu'on a eu des attentats là récemment, et qu'on était tous devant nos télés. On partage le truc, on s'appelle, on se tient au courant, mais il y a un moment dans la journée où on est tout seul face à ça, et en fait on ne sait pas exactement ce que le voisin pense, ce qu'il ressent, est-ce qu'il ressent la même chose que nous, et je trouve qu'on est de plus en plus seul face à une mare d'informations, d'événements, de choses, de partout, tout ce qui nous arrive maintenant avec l'internet dont on n'était pas forcément au courant avant, et on est tout seul à gérer ça, et ça je trouve que c'est vraiment difficile.
Tu as choisi de nommer tes trois parties de sorte que l'on comprenne cette superposition au-delà de les vivre en les lisant. La première s'intitule Golden Ratio, qui veut dire le nombre d'or. La seconde, Coma Carus, qui désigne un coma qui serait comme, on va dire, dépossédé, dénué de tout réflexe. Enfin, le corps ne répond plus à rien, d'après ce que j'ai compris. Et enfin, le tout dernier, Iner Jaber 8, ou 8, qui renvoie à une notion d'intériorité absolue que je n'ai pas su définir plus avant. Ça correspond à quoi, le titre de cette troisième partie?
Je ne sais pas très bien, en fait. Un matin, je me suis réveillée, j'avais rêvé cette expression, et je me disais, c'est une espèce de charabia, tu sais, quand tu fais le petit vélo dans ta tête, une espèce de charabia, et je ne sais pas pourquoi 8, et je me suis dit, peut-être c'est 8 films qui m'ont marqué, ou 8 acteurs que je trouve vraiment emblématiques, et puis en cours de route, je n'ai pas réussi à en mettre que 8, parce que ça... J'en ai ni trouvé 8, ni plus que 8, parce qu'en fait, c'est infini. On peut aimer des gens dans n'importe quelle catégorie de rôle, même des scènes très courtes. Et après, le titre est juste resté parce que je le trouvais bien, mais il veut rien dire de particulier, juste que le personnage est dans sa tête, quoi. Elle a plus d'interaction avec personne, en fait.
Mais c'est ça.
Dans cette partie-là.
Alors, dans la première partie, en nous livrant notamment les personnages de Bert et de Russ, en nous les montrant tout à la fois en train de faire ce qu'ils sont en train de faire, mais aussi en nous permettant de les entendre penser, ou en tout cas en nous plaçant au cœur de l'excitation de l'installation des participants aux Oscars, ça tout à la fois, tu nous mets au milieu d'une sorte de fureur, de bruit extrême dont on ressort, mais alors vraiment essoré. Le rythme est effréné en quelque sorte, éreintant. Est-ce que c'était pour dire... aussi ce milieu-là, au-delà de la violence et l'impact de l'attentat. Est-ce que c'était aussi pour dire...
Je trouve que c'est fascinant, tous les corps de métier qui se retrouvent dans les situations d'urgence comme ça, tous les secours différents, tout ce qu'ils sont capables de faire, que nous, on ne pourrait pas faire, même avec juste un stage à la Croix-Rouge, ça ne suffit pas. On apprend des trucs tout con, on peut sauver une vie, mais je suis toujours fascinée de voir comment tout se met en place, en fait, la chaîne de commande, comment tous ces gens, les secouristes, les médecins, les urgentistes, les pompiers, les policiers, c'est comme si chacun était un maillon d'un si un, je sais pas comment expliquer
un gros balai,
et quand tu prends un film catastrophe par exemple comme La Tour Infernale, ils sont sur tous les fronts et chacun a une tâche précise et tout est lié et on voit jamais ça de l'intérieur.
Est-ce que tu t'es documenté pour obtenir une écriture aussi précise de justement tous ces corps de métier, tout comment par exemple le coup de la glace dans le parking?
J'ai passé 2-3 ans à faire des recherches, mais uniquement sur Google. J'ai rencontré personne, j'ai parlé à personne. J'ai fouillé et en fait tout est là quand on regarde bien sur les sites gouvernementaux. C'est rempli de plans de secours, de gestion d'attentats, d'accidents collectifs, d'accidents avec les victimes multiples. Tout est là déjà.
D'accord.
Donc j'ai fouillé tout ça, aussi bien les sites gouvernementaux français que américains et canadiens, parce que le français et l'anglais sont les deux seules langues que je sais lire. Et tout est là. Et après, j'ai croisé les deux, parce qu'il y a des choses qui se passent aux États-Unis qui ne se passeraient pas en France et inversement. Et j'ai été sur tous les sites que j'ai pu trouver de secourisme, de médecine terroriste. Et j'ai posé quelques questions sur des forums de pompiers pour avoir des détails, des noms de spécifications, des choses comme ça. Mais en fait, il est possible qu'il y ait des passages qui soient un peu indigestes à la lecture, mais le problème, c'est que quand on regarde des scènes qui se passent comme ça dans des situations d'urgence ou d'hôpitaux dans des films ou des séries, on s'en fout si on comprend pas le jargon médical ou technique, parce qu'on voit l'image et donc on comprend bien qu'ils sont en train de sauver des vies. On peut pas faire ça dans un livre parce qu'on n'a pas l'image. Et toutes ces scènes, il n'y a pas de... Les trois personnages principaux, c'est pas vu à travers leurs yeux, il n'y a pas de narrateur, il y a un narrateur neutre.
Oui.
Donc j'étais obligée d'arriver à distiller ça un peu partout et peut-être c'est un peu laborieux ou maladroit, il y a des briefings, il y a des mémos, il y a des choses comme ça, mais je voulais qu'on comprenne bien qu'en fait c'est énorme comme organisation.
Pour moi c'est réussi. Russ,
ouais, c'est
non
c'est
mais gentil, vraiment, mais non, mais parce que, enfin, on y reviendra plus tard dans l'interview, mais il y a aussi dans ce roman-là une puissance évocatrice de l'image qui est réelle et dont moi j'ai pas su dire si c'était là à tel point pour aussi contribuer à l'hommage au cinéma. Mais on y reviendra tout à l'heure. Bert, Russ et Angie, les trois personnages principaux de Cortex, ont tous une histoire lourde, tragique avec leur mère, et puis il y a aussi la question du suicide qui sous-tend tout le roman. Et à la toute fin du roman, on trouve des remerciements très précis sur cette question. Et est-ce que cela a été difficile pour toi de retranscrire du témoignage? Je veux dire particulièrement délicat.
Non, parce que effectivement, j'ai un ami qui a perdu sa femme et sa fille à un an d'écart il y a 4-5 ans. Et il y a une grande différence entre les moments où quelqu'un raconte comment il vit ça au quotidien et ce qu'il ressent, etc. Et ça, forcément, on est affecté parce que c'est hyper triste. Et en même temps, je prenais des notes. Et le moment où on se met à travailler, il n'y a plus d'affect. Ça devient... on sculpte une matière. Et donc, on essaye de... Je suis même pas sûre qu'on essaye de rester fidèle à ce qu'on a recueilli comme matière, parce que de toute façon, on va l'utiliser pour autre chose. Moi, je l'ai utilisé pour un personnage qui a perdu sa femme il y a un mois. Tout ce qu'il m'a dit, lui, ses 5 ans de ressenti, ça n'a rien à voir dans les étapes du deuil. Et je l'ai adapté ça comme j'ai pu. En plus, c'est d'un américain, donc derrière, j'ai traduit ce qu'il m'a dit, réécrit. Et au final, je pense que si le livre est traduit ou s'il pouvait lire le français, il ça n'aurait plus aucun rapport avec ce qu'il a pu me raconter, mais il n'y a pas d'affect au moment où on travaille. Ouais. Évidemment, si on a les larmes aux yeux au moment où on écrit une scène, il y a plus de chances que le lecteur les ait aussi. Si ça ne coûte rien en écrivant, ça ne va pas lui coûter grand-chose de lire non plus, ça c'est sûr. Mais il n'y a pas d'affect quand on travaille, c'est du boulot, on construit quoi. Donc non, il y a deux scènes qui me font pleurer quand je relis, mais c'est pas celle du deuil, non.
D'accord.
Parce que c'est pas ça, non.
Pourquoi avoir choisi de laisser parmi les personnages un lien avec la France ?
Parce que je suis jamais allée aux États-Unis. Donc je suis jamais allée à Los Angeles et le seul moyen d'écrire sur Los Angeles en n'y étant jamais allée, c'est à travers les yeux de quelqu'un qui se bat pour la première fois et qui voit pas grand chose. Sinon c'est périlleux comme exercice.
Ah oui, c'est ouf, j'aurais jamais dit ça, jamais. Je pensais que quasiment tu habitais entre la France et les États-Unis en fait.
Non, je suis jamais allée parce qu'au moment où j'ai commencé à vouloir y aller vers 20 ans, j'ai développé une phobie de l'avion, je suis devenue claustrophobe, donc j'arrivais pas à me décider à monter dans un avion pour 6 ou 9 heures. Et puis je crois que maintenant j'ai peur d'être déçue, je vais y aller, mais bon, j'ai pas de réponse à cette question. Je sais pas pourquoi. Mais la magie du truc, c'est qu'on peut tout faire maintenant avec Internet. Ouais. On va sur Google Street View, on est dans la rue. Et après, ça suffit pas pour recueillir l'odeur ou l'ambiance, mais voilà, j'ai discuté un peu avec des gens qui connaissent bien la ville et j'ai noté ce que je pouvais et après, on met tout ça dans un mixeur et de nouveau, on sculpte comme on peut, quoi.
C'est bien vu. Il y a toujours eu beaucoup, beaucoup de force, de violence entre tes lignes, une sorte de rage que peut-être tu transformes dans tes romans, qui est peut-être même le moteur de l'écriture. Est-ce que tu es en colère contre une génération qui a laissé partir un monde, qui l'a laissé se transformer ?
Non, de temps en temps, je pense aux deux ou trois Américains qui ont créé Twitter. Je pense à Zuckerberg qui a créé Facebook. Et je me demande si j'étais pas un peu jeune au moment de créer ces plateformes et s'ils ont vraiment réfléchi aux implications. Parce que comme toutes les inventions, il y a une poignée de gens qui se servent intelligemment et de manière intéressante. Et puis, il y a, je sais pas, 70% de gens qui se servent à des fins plus personnelles ou moins bienveillante et ça fait chier quoi. Mmh. Non, je suis pas en colère contre... Non. Peut-être il y a des parents, je trouve, qui transmettent pas des choses que moi j'aurais essayé de transmettre si j'avais eu des enfants, j'en ai pas, donc en même temps c'est facile à dire, je sais pas. Non, je suis pas en colère. Je suis en colère contre la baisse de qualité de plein de choses.
Mmh. Je trouve Dis-moi.
Contre la façon dont des tas de choses sont montées en épingle et puis disparaissent à peine apparues.
Ouais,
ça laisse le temps de rien, mais c'est pas que les réseaux sociaux. Mais en fait, le truc, c'est que c'est une fuite en avant, toujours, quoi qu'il arrive, quelles que soient les technologies qu'on développe, etc. Donc je vois pas comment on aurait pu éviter de créer les réseaux sociaux. Mais ça a foutu par terre plein de choses, je trouve. C'est la seule colère que je pourrais avoir, c'est vis-à-vis de la catégorie de gens qui disent bah oui mais bon c'est comme ça, c'est pas grave, tant pis. Parce que je vois pas très bien où on va en fait. Et sur tous les plans je vois pas très bien, et là on a le on est en plein dedans quoi, en attendant le deuxième tour de la semaine prochaine. Mais les gens ont baissé les bras et je sais pas, enfin c'est... Non, je suis pas en colère. Je trouve juste que les jolies choses dans les romans sont les jolies choses paisibles qui se terminent bien, c'est agréable, mais quelque part on s'en fout un peu je trouve, parce que ce qui est intéressant, je trouve, dans la création dans la fiction, c'est le conflit. Parce que ce qui est intéressant, c'est comment on va résoudre ce conflit.
Tout à fait.
Donc la littérature qui est pleine de bons sentiments, je trouve ça sympa, joli, mais elle me nourrit pas, quoi.
Anne Scott, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation dans Rock and Page aujourd'hui. Merci pour Cortex, qui est un sacré moment de lecture. Tu ne coupes pas à la question Rock and Page. Quel titre de musique t'a accompagné pendant l'écriture de ce roman ?
D'un point de vue technique, je dirais Station to Station de Bowie, parce qu'il y a une succession de couches successives dans les sons qui se rajoutent jusqu'à ce que ça devienne tout à fait autre chose. Et qui tourne en circulaire avec le bruit je crois que c'est un train qu'on entend derrière, oui, qui revient sans arrêt. Et à peu près tous les, je sais pas combien de mesures, il y a un nouveau son. J'avais besoin de ces strates qui s'ajoutent les unes aux autres avec ce mouvement circulaire pour arriver au cœur du sujet du livre. Ça, c'est juste technique. D'un point de vue romanesque, ce serait plus Running to the Edge of the World de Marilyn Manson ou un truc comme ça.
Très bien.
Ce sont vraiment des paroles sur la solitude et le désespoir.
C'était David Bowie, choisi par Anne Scott pour évoquer l'écriture de son dernier roman, Cortex, qui sort cette semaine chez Stock, et qui, croyez-moi, est un grand moment de lecture, un voyage dans l'univers du cinéma, autant que dans notre société malade du spectacle, et tout autant encore un voyage dans l'intime absolu, celui de l'amour, du deuil, bref. Anne Scott confirme qu'elle est une auteure avec laquelle nous pouvons compter. Cortex, c'est une lecture sur grand écran avec une réalisatrice à la plume écorchée qui parviendra à faire résonner vos intimes à vous, de cela je suis certaine. Merci Anne Scott d'avoir répondu à mon invitation, merci à Bruno de Divergence FM à la réalisation de cette émission. Avant de vous laisser prendre un petit Santigold en travers la figure, comme moi je l'ai pris ce roman, permettez-moi de vous glisser qu'une campagne de soutien est lancée pour Radio Grenouille à Marseille et que par les temps qui dégénèrent, si vous avez envie de pouvoir continuer d'écouter de la grande qualité, de la liberté absolue, du non formaté, eh bien bougez-vous, allez sur leur Facebook, sur leur site internet et voyez ce que vous pouvez faire. Prenez bien soin de vous. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine en cramant des caniches pour ne pas avoir à vous annoncer sous la vague bleu marine saloperie que toutes vos radios engagées mettent la clé sous le paillasson. Allez, bisous. Carcalame avec mes licornes.